Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. Une émission ce matin préparée par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Leridon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Troisième volet de notre série consacrée aux besoins d'évasion, alors que le soleil tape, que la température monte et que l'appel du large se fait de plus en plus pressant. Après avoir parlé des transformations du secteur touristique, de la fièvre consumériste hier, place à un monde aussi vaste que proche. Et pour cause, il est là, juste devant nous, sur nos écrans, le monde des séries.
D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant.
Si c'est un agent,
0%.
Holy fuck.
Vous avez été manipulée, Marina.
J'ai l'impression qu'on sait qui je suis, qu'il va m'arriver quelque chose. Il faut que je m'éjecte très vite, avant qu'il soit trop tard.
Take the shot.
Carrie,
we're losing our window.
It's Saul.
Reaper 1, weapons away.
That is the ex-director of the CIA. Do not shoot.
Take the shot, goddammit! Wipe that fucker out!
Are you out of your mind? That is Saul down there.
Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix récupérer Malotru?
Parce qu'il est des nôtres.
Une taupe.
Voilà quelques extraits mélangés des séries Homeland et Le Bureau des Légendes. On les présente parfois comme les grands gagnants du confinement, les géants du streaming comme Netflix ou Amazon, principaux fournisseurs en ligne de films et surtout de séries, ont battu des records en termes de fréquentation et de nouveaux abonnés. Si le binge-watching, c'est-à-dire la consommation effrénée de séries, peut être une forme d'évasion, il s'agit d'un genre de fiction qui propose surtout un miroir tendu sur notre réalité quotidienne. Mais alors, quelles sont les réalités qui nous sont proposées par les séries? Quelle vision du monde? Quelle représentation des relations internationales, de l'évolution de nos sociétés, de nos démocraties? Et puis, que produisent-elles sur nous en retour? Comment bouscule-t-elle nos valeurs et nos convictions? Comment s'invite-t-elle parfois dans notre réel? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité, il le fallait, une philosophe. Bonjour Sandra Laugier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Merci.
Vous êtes professeure à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France, et votre dernier ouvrage portait précisément sur les séries. Nos vies en série, c'était chez Flammarion. Avant de parler justement des séries, Sandra Laugier, je vous remercie d'être là. On est doublement content, d'abord parce que vous avez jamais eu dans Culture Monde, donc c'est un plaisir de vous avoir. Et que par ailleurs, vous êtes là, en studio, physiquement.
C'est un grand plaisir vous de retrouver les studios.
La première invitée post-déconfinement pour Culture Monde, c'est un plaisir. Vous avez entendu, Sandra Laugier, ces extraits du Bureau des Légendes et de Homeland. On dit que ce sont les grandes gagnantes de ce confinement. Elles ont été énormément vues. Alors, on peut se dire qu'elles ont eu du succès parce que c'était elle qui était là au moment du confinement, donc il y a peut-être une logique de calendrier. Mais on peut aussi se demander si c'est pas lié au thème qu'elle traite. On est quand même là dans le monde des services secrets, de l'espionnage, d'un monde qui, au fond, nous est totalement éloigné, inconnu, très exotique. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait leur succès? Ce sont des séries qui, au fond, nous permettent précisément de toucher un exotisme auquel on n'a jamais accès ou quasi, et c'est ça qui fait le succès?
Oui, c'est en effet très très important de se rendre compte que les séries pendant le confinement, mais les séries en général, hein, ont joué un rôle vraiment très très central et se sont installées encore plus dans la vie des gens, hein, des spectateurs, spectatrices, parce que ils étaient justement confinés chez eux et avaient cette compagnie, en fin de compte, des personnages de séries télévisées. Et je crois que ce qui vaut pour ces séries, c'est vraiment à l'intérieur d'un phénomène très général, hein, où les séries ont servi de fenêtre aussi sur le monde extérieur, y compris des séries qui décrivent un monde très ordinaire, hein, pas seulement donc les séries dont on parle, mais il est clair qu'il y a là aussi un hasard de programmation ou un moment de l'histoire où En effet, deux séries extrêmement importantes se sont terminées, hein, en tout cas pour le Bureau des légendes dans sa forme, dans sa forme première, pendant le confinement. Et donc, elles ont vraiment aussi attiré, bien sûr, beaucoup de commentaires, parfois d'ailleurs des critiques. Hein, et donc, elles ont répondu à un certain besoin. Alors, pas seulement le besoin auquel les séries répondent habituellement, qui est en effet d'assurer cette forme de compagnie, de confort, de rendez-vous quotidien, hebdomadaire, retrouver des personnages, mais aussi parce que elle traitait d'une thématique qui est vraiment celle qui est centrale dans tout un nouveau genre de série, à savoir la thématique de la sécurité. La thématique de la sécurité, puisque elles font partie d'un genre de série qu'on peut appeler sécuritaire, même si j'aime pas trop le mot, dans la mesure où sécuritaire, c'est aussi la psychosécuritaire ou des enjeux de privation de liberté qui sont problématiques. Mais c'est vrai que c'est des séries qui sont ancrées dans une réalité qui est la menace, en fait, sur les pays, notamment les démocraties occidentales, menacent donc du terrorisme et donc ce que font ces États et en particulier leurs services de renseignement pour combattre le terrorisme. Et donc, évidemment, un sujet assez éloigné, mais en réalité, non, puisque c'est vrai qu'on était dans une situation d'insécurité globale. Hein, oui, donc, bien sûr, il y avait une sorte de menace sur les formes de vie humaines, avec un ennemi invisible.
Mais c'était pas le même ennemi, quand même.
Voilà, qui touchait voilà, toutes sortes de personnes. Et bien sûr, le virus, hein, c'est pas du tout le même ennemi, mais la question, c'est vraiment celle de la sécurité. Et la question aussi était la façon dont les gouvernements, les États gèrent, en fait, la menace. Et ça, c'est vraiment aussi une question extrêmement actuelle, hein, qui s'est posée constamment pendant le confinement.
Et pardon, la manière dont il la gère, mais aussi les défaillances qu'il peut y avoir de nos gouvernants. Vous aviez dit dans un billet sur Libération, je vous cite, ces séries sont écrites sous la menace, qui n'est plus seulement le terrorisme, celle de la destruction par des dirigeants dangereux. L'ennemi n'est pas une personne ou un groupe particulier, mais l'incapacité des gouvernants à répondre à la menace, au chaos. Donc, au fond, c'est la question de la faillite de nos élites, et donc c'est une question qui est liée à la crise de nos démocraties qui est là.
Alors, exactement, hein, je crois que ce qu'on a surtout dans Homeland d'ailleurs, hein, parce que c'est un thème constant de Homeland, parce que Homeland est beaucoup plus, peut-être que d'autres séries de ce profil, en lien avec ce qui se passe à la Maison Blanche, avec des gouvernants.
Puis on est plus dans les arcanes du pouvoir.
Voilà, les arcanes du pouvoir. Et donc, Homeland a toujours été extrêmement attaché à l'analyse de ces rapports de pouvoir et des erreurs, hein, que font les gouvernants, et surtout même du danger, en fait, qu'ils peuvent représenter. Hein. Dans Homeland, on a eu une présidente qui était carrément à la limite du fascisme. Et là, on a, dans la dernière saison, mais bien sûr, je ne spoilerai pas, mais on a donc un président qui est particulièrement incapable et donc nuisible, en fait, très très dangereux par son incapacité. Et donc là, on a vraiment un exemple, en fait, de questions qui se posent en effet à la fois avec le danger terroriste et le danger sanitaire de la pandémie. Donc il y avait quand même une sorte d'ambiance un peu commune, et d'ailleurs cela englobait aussi par exemple un autre type de série comme la série de Tchernobyl, hein, qui a été beaucoup regardée. Pour ceux qui l'avaient pas vu l'an dernier, ils l'ont énormément regardé pendant le confinement, parce que c'est aussi une série qui décrit un autre danger, hein. Donc c'est vraiment
et aussi un danger invisible.
Et évidemment, également, tout à fait.
Résonne avec la question du virus.
Un danger invisible, et là aussi avec la question de la gestion politique des dangers, mais surtout la reconnaissance du fait qu'on est dans un monde, en effet, où on n'est pas en sécurité. Personne ne l'est, et c'est ce que dit, bien sûr, le générique de Homeland, hein, qui revient en septembre. C'est ce que dit vraiment le Bureau des légendes, hein, constamment. Hein. Il y a des gens qui veulent notre mort, on est en danger. Et donc, cette insécurité humaine, je pense que c'est vraiment ça qui est le point de départ. Après, comme vous le disiez très bien, je crois qu'il y a eu, évidemment, avec cet ensemble de séries d'espionnage sécuritaire, une sorte de plongée dans un univers professionnel, notamment, qui est mystérieux. Hein. Alors, évidemment,
et donc fascinant.
Voilà, fascinant.
Est-ce que, Sandra Logier, ces séries changent notre regard sur le monde et changent en particulier notre perception de la menace, en l'occurrence du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il vous semble que ça change quelque chose ou finalement on reste dans le monde de la fiction et nos conceptions, nos représentations du monde ne sont pas franchement ébranlées?
C'est vraiment toujours la question avec les séries. Je crois que l'idée que les séries sont un miroir de la société, même si c'est vrai en partie, je crois qu'elle est très largement dépassée. On n'est pas seulement au niveau du miroir, de la représentation, et très souvent, jusqu'à maintenant, les séries étaient analysées en fait dans ces termes-là, comme voilà, révélant des situations sociales, etc. Et je crois que si on veut vraiment comprendre en fait la puissance des séries, le fait qu'elles aient ce caractère, comme on dit, addictif, qu'elles prennent tant de place en fait dans nos vies, je crois que c'est vraiment tout autre chose que de la représentation, hein, mais c'est vraiment en effet une sorte d'action, hein, ce qu'on appelle réception, hein, mais en un sens fort, pas au sens d'une réception passive de la personne dans son canapé qui voilà qui absorberait, hein, ça n'existe pas, mais vraiment une forme de réception active où, en réalité, la série vous fait réfléchir, hein, vous donne à penser. Et c'est ça, en fait, la thèse de mon livre, hein, c'est que les séries sont elles-mêmes, en fait, des œuvres de pensée qui suscitent à la fois des interrogations, qui produisent des connaissances et qui aussi, en effet, transforment notre vision du monde. Et je crois que, justement, le renseignement, hein, ce qu'on a dans le Bureau des légendes, d'Homeland, etc., c'est justement un domaine aussi qui articule la connaissance, hein, parce que le renseignement, le fait de savoir, d'avoir des informations sur ce qui se passe dans le camp adverse ou différent ou allié, hein, c'est pareil en fait. Donc c'est quand même extrêmement important.
Alors, Sandra Logier, là il y a quelque chose d'important parce que vous dites au fond ces séries participent à la construction de notre connaissance sur le monde, des relations internationales, de comment tout cela fonctionne. Et c'est vrai parce que on y voit des personnages éminemment complexes, pris dans les méandres, d'abord de leurs propres contradictions, mais aussi évidemment de la complexité du jeu diplomatique, du jeu géopolitique. Et en même temps, parallèlement au succès de ces séries, on voit progresser de plus en plus toutes ces théories du complot un petit peu partout, avec des scénarios complètement improbables qui ont tendance précisément à faire fi de cette complexité. Alors, on peut faire deux hypothèses. Soit ceux qui regardent les séries ne sont pas des complotistes, on a là deux groupes bien séparés, soit on peut dire que les choses se mélangent un peu. Et alors, comment comprendre cette cohabitation des deux?
Alors, cette cohabitation, elle est naturelle et compréhensible et fait partie du succès de ces séries puisqu'il y a une forme, finalement, on dirait en anglais empowerment, hein, il y a une forme de mise en activité des spectateurs qui se sentent eux-mêmes capables de discuter. Par exemple, il y a aussi toute l'activité des blogs, de critiques en ligne, etc. Donc, les séries télévisées ont vraiment créé aussi une sorte de créativité collective, hein, une forme de démocratisation qui, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Bien entendu, après, il y a ces phénomènes aussi donc de délire et de fake news, dont vous savez bien aussi qu'ils sont analysés de façon très, très profonde dans ces séries. Hein, si vous regardez non pas la dernière saison de Homeland, mais l'avant-dernière, où on a justement toute une saison qui est consacrée à démonter, en fait, la façon dont un créateur de fausses nouvelles va essayer vraiment d'influer sur la politique et la géopolitique. Hein, donc, c'est extrêmement intéressant. C'est présent aussi par moments dans la dernière saison. C'est présent dans le Bureau des légendes. C'est présent dans une série qui n'est pas dans le genre sécuritaire, mais qui touche un peu, qui est Baron Noir, hein, qui avait aussi cette analyse. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment ces séries se sont attaquées à ce problème-là comme à d'autres et décrivent en fait ces mécanismes-là. Et donc, il y avait vraiment en fait ce pouvoir de réflexion et d'analyse. Bien sûr, beaucoup de gens vont en effet diffuser des imitations d'épisodes ou des fausses nouvelles, etc. Mais je crois que là, c'est aussi quelque chose qui fait partie de tout cet univers des séries. Et je crois que c'est aussi dû au fait que ces séries, même si évidemment c'est de la fiction, c'est rappelé chaque fois d'ailleurs au début, hein, dans le Bureau des légendes, en même temps, bien entendu, ça traite très directement de questions actuelles et c'est des séries qui ont toujours une ambition réaliste très forte. Donc comme c'est de la fiction, mais que ça a cette ambition, c'est pas seulement que ça ressemble à la réalité, parce que ça c'est complètement banal pour la fiction, mais ça intègre en fait des éléments de réalité très forts. Je sais pas si vous vous rappelez, puisque vous connaissez bien Homeland apparemment, donc dans la saison 5, je crois il y a eu justement on montrait un groupe donc de terroristes en Allemagne qui préparaient un attentat à Berlin, et juste à ce moment-là, pendant la diffusion, il y a eu les attentats en France. Et donc c'était en 2015, et immédiatement une réplique a été ajoutée dans l'épisode suivant pour faire une allusion à ces attentats. Alors une personne qui était vue de dos, donc ça a été ajouté, mais il y avait vraiment cet élément-là, et il y a constamment donc ces effets de réel à l'intérieur d'un univers totalement fictionnel.
Et ce qui est intéressant, c'est que la fiction essaye de rattraper le réel, en tout cas, évidemment, s'appuie largement dessus, mais parfois, c'est l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, mais justement à propos de Homeland, en 2015, quand dans la série, Carrie Mathison, qui est l'héroïne de la série, quitte la CIA, la CIA fait un tweet en se félicitant du départ de Carrie Mathison dans la série. Ouais. Quelques mois plus tôt, l'ambassadrice pakistanaise aux États-Unis s'en prend au scénario, considérant que ces insinuations permanentes de collaboration entre les services pakistanais et les terroristes est absolument insupportable. Donc parfois, la fiction, au fond, vient jouer sur le réel. Que vous inspire cet entremêlement des deux ?
Ah, c'est l'entremêlement qui est propre à ce genre-là, au genre sécuritaire. Hein. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que, en effet, il y a cet impact de la réalité dans la fiction. Et puis, la fiction elle-même, dès lors qu'elle est extrêmement vue, que c'est vraiment le succès aussi de ces séries qui leur donne ce rôle, elle fait elle-même partie de la réalité. Hein, c'est une réalité aussi. Bien sûr qu'il y a toutes sortes d'éléments qui vont, en effet, jouer un rôle. Alors, je ne vais pas dire de propagande parce que je n'aime pas le mot, mais effectivement, il y a un discours politique qui va être associé, qui va être diffusé par ces séries, et donc elles vont faire partie du paysage. Après, la CIA peut aussi se féliciter du départ fictif de Carrie Mathison, ça a toujours été un personnage qui a posé problème à la CIA, et notamment aux femmes de la CIA, qui trouvaient qu'elle donnait vraiment une représentation assez indigne et pas très digne, justement, d'une agente, même si Homeland a beaucoup fait aussi pour la réputation de la CIA, et que évidemment ces scénaristes ont travaillé avec des experts.
Parce que c'est un personnage particulièrement instable psychologiquement, voilà, pour instable, ceux qui n'ont pas vu la série.
C'est instable, et puis elle se comporte souvent de façon un peu éthique, elle a un comportement sexuel qui n'était pas complètement présentable, etc.
Pour poursuivre, Sandra Laugier, sur la question de l'effet des séries sur nos imaginaires et peut-être aussi sur l'évolution au fond des normes sociales et sociétales. On a dit à propos de cette série The West Wing qu'elle avait préparé d'une certaine manière l'imaginaire américain à l'idée de l'arrivée d'un président noir à la Maison Blanche. Rappelons que dans la saison 2, je crois, il y a un président noir qui arrive à la Maison Blanche. Est-ce que vous pensez que ces séries ont un tel pouvoir et plus généralement, est-ce qu'elles peuvent nous préparer au fond à des transformations sociétales Est-ce qu'elles ont ce pouvoir-là?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez dit de West Wing, alors que c'est 24 heures.
Hein, c'est 24 heures, pardon.
Chrono. Mais, justement, hein, c'est une très bonne association, puisque je pense qu'on peut tout à fait, comparer 24 heures qui, en effet, avait ce personnage absolument magnifique du président Palmer, hein, qui est candidat dans la première saison, qui est président dans la seconde, donc un peu après, et que le héros Jack Bauer est constamment en train de protéger. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que 24 heures chrono a souvent une image un peu réactionnaire. Elle a été diffusée au lendemain du 11 septembre, même si elle a été préparée longtemps avant. Il y avait toutes ces rituels de torture qui faisaient qu'elle a souvent été extrêmement critiquée. Et donc, c'est une série qui elle était aussi sur Fox, donc voilà, pas forcément dans un média extrêmement de gauche, et donc elle a cette réputation de série pro-américaine un peu caricaturale, et pourtant c'est cette série qui a présenté justement ce personnage de président noir. Et il y a vraiment justement dans cette question de la réception et du fait de s'habituer à voir ce beau personnage, bien sûr, ça a une influence, même si elle n'est pas facile à mesurer. Et si on pense à The West Wing, c'est aussi une influence tout à fait, alors dans les deux sens, hein, mais tout à fait intéressante, dans la mesure où dans les dernières saisons de The West Wing, on voit émerger en fait un personnage de candidat à la présidentielle issu d'une minorité, hein, donc c'est quelqu'un, c'est un hispanique, hein, donc c'est pas un noir, mais ce personnage était inspiré à l'époque, donc les scénaristes se sont inspirés du personnage de Barack Obama qui émergeait, qui commençait en fait à se faire connaître, qui était vraiment repéré comme extrêmement brillant, hein. Et donc c'est vraiment ce personnage en fait qui représente Obama avant même que Obama ait été même considéré comme éligible.
Oui, mais il y a quand même d'abord, en tout cas, l'évolution sociétale, et puis ensuite, dans la fiction, on essaye d'aller plus loin. Mais regarde, par exemple, la question des Noirs dans le pouvoir, dans l'administration américaine, il faut peut-être pas oublier qu'il y avait déjà un Noir qui a été secrétaire d'État de George W. Bush, qui était Colin Powell, qui était issu d'une famille de migrants jamaïcains. Donc, le mouvement était déjà là au sein de la société.
Alors, je crois que c'est pas peut-être si exact que ça, parce qu'il me semble que, bien sûr, hein, il y a des évolutions comme celles que vous parlez, mais elles restent quand même extrêmement minoritaires et des exceptions, hein, surtout dans ces gouvernements républicains. Et je crois que les séries télévisées, elles vont vraiment toujours être un peu en avant, en fait. Elles vont toujours jouer un rôle de précurseur, hein, beaucoup plus que le cinéma, hein, en tout cas le cinéma commercial majoritaire, hein, parce que le cinéma indépendant aussi a ce rôle d'avancée sociétale. Mais en réalité, les séries télévisées, que ce soit pour la représentation des femmes, des minorités sexuelles et raciales, elles sont vraiment chaque fois en avance, et c'est plutôt elles qui suscitent en fait qui suscitent les changements, hein. Si vous regardez une série, là on n'est plus dans le genre sécuritaire, mais la série When They See Us, dans leur regard, qui représentait l'histoire des 5 jeunes de Central Park, et donc ces 5 jeunes qui avaient été arrêtés de façon absolument injuste et accusés du viol d'une femme blanche. C'est une série Netflix, hein, donc très très grand public, mais qui a vraiment suscité un mouvement de reconnaissance en fait de cet événement, qui était très peu connu des jeunes générations, aussi incroyable que ça paraisse. Et ensuite, ça a vraiment joué un rôle dans la réhabilitation en fait de ces personnes, hein, qui se sont ensuite trouvées elles-mêmes, les 5 de Central Park se sont trouvés eux-mêmes à la soirée des Emmy Awards où la série a été récompensée. Donc en réalité, il y a vraiment en fait cette volonté dans les séries et dans ceux qui les font, hein, de produire du changement, de produire vraiment le changement social, d'attirer l'attention sur des phénomènes, parce que très souvent, c'est vraiment en fait l'ignorance, hein, qui va créer les préjugés.
Même si parfois ça fonctionne pas toujours. Je reviens sur Homeland par exemple. Les auteurs avaient mis en avant une femme présidente, peut-être en pensant d'ailleurs qu'Hillary Clinton l'emporterait. Finalement, il y a toujours pas eu de femme à la Maison Blanche. Donc les prédictions sont pas toujours bonnes. Est-ce qu'il vous semble, Sandra Laugier, qu'aujourd'hui, il y a des séries américaines qui sont en train précisément de préparer l'esprit des Américains, voire même l'esprit américain, à un nouveau changement majeur.
Alors, pour revenir à l'histoire des femmes, de la présidente femme, c'est vrai que la série a été faite à un moment où c'était assez, ça paraissait clair qu'il y aurait une femme. Hein, et c'était quand même aussi dans la logique, il y avait une forme de vérité. Et c'est vrai qu'il y a eu cet horrible accident de parcours dont on espère qu'il sera bientôt oublié. Après, bien entendu, hein, les séries accompagnent constamment les changements. Et les séries télévisées, elles ont vraiment aussi comme oui cette mission d'habituer les personnes, les spectateurs à des situations aussi, à vraiment rendre familière en fait des situations. Donc il est clair que leur rôle sera en effet hein, d'accompagner et de représenter en fait des nouvelles formes de vie qui vont émerger.
On va prendre un exemple en particulier, actuelle. Sandra Lougier, parce qu'il y a une série que vous aimez tout particulièrement. Vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage à un moment que c'est vraiment votre préférée et que voire même c'est la meilleure série du 21e siècle. c'est vous qui le dites, hein. C'est The Americans. Alors juste en quelques mots, moi je l'ai pas vu, mais c'est une série qui met en scène un couple d'officiers du KGB qui vivent aux États-Unis, qui mènent des opérations de renseignement, et donc ce sont des communistes, accessoirement quand même un peu des menteurs, c'est leur rôle, hein, ce sont des espions, mais en tout cas ce sont des communistes.
C'est leur travail.
C'est leur travail.
De mentir.
Mais en tout cas ce sont des communistes. Est-ce que, et cette série en fait des héros, est-ce que là on ne pourra pas y avoir quelque chose là, qui est en train de préparer l'esprit américain ? On dit depuis plusieurs années que le terme socialiste qui longtemps a été si péjoratif aux États-Unis est peut-être en tout cas en train de se dégager justement de ce sens négatif. Est-ce que par exemple cette série pourrait préparer les esprits précisément à l'arrivée d'un ou d'une présidente qui se revendiquerait du socialisme, ce que d'aucuns font maintenant sur l'aile gauche du Parti démocrate, pas tous mais certains, est-ce que c'est une transformation là qui pourrait que pourrait opérer cette série?
Alors, c'est effectivement une série hein, magnifique, mais qu'une série historique qui représente vraiment ces années 80, donc un certain moment historique. Elle avait ça d'extraordinaire, mis à part, donc elle est très bien écrite avec des acteurs qui sont quand même assez exceptionnels, mais ne me lancez pas sur The American, sinon on va y passer vraiment beaucoup de temps, mais qui, en effet, arrivait à créer une forme d'affection du public pour, comme vous le disiez, des gens qui sont des communistes, des menteurs et des assassins, puisqu'ils tuent quand même des gens, et en plus qui sont adultères, ce qui est le crime absolu, hein, donc qui couchent pour leur travail. Hein. Donc c'est quand même un phénomène extrêmement intéressant, en effet, et il y a eu certainement des séries qui ont, en effet, ouvert le spectre politique aux États-Unis, hein, c'est clair. Hein, et évidemment, il y a celle-là, mais il y a aussi justement toutes les séries qui ont attiré l'attention sur la ségrégation sociale, le racisme. Et il y a eu beaucoup de séries Netflix ou des mini-séries qui se sont vraiment attaquées à ces sujets. Hein. C'est vrai qu'on critique souvent Netflix avec son côté un peu standard et commercial, mais il y a eu vraiment tout un ensemble d'œuvres qui ont été assez... Alors, je dis pas courageuses parce que c'était aussi pour aller dans le sens d'une demande hein, et de quelque chose de plus progressiste, hein,
mais plus progressiste, vraiment, précisément.
Voilà. Après, les séries télévisées en tant que telles ont souvent eu cette dimension progressiste un peu dans l'ADN des séries. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sont très réactionnaires. Hein. Il y en aurait un petit peu peut-être, mais même déjà Urgence à la Maison-Blanche, récemment Big Little Lies qui est très féministe. Les grandes séries ont toujours en fait eu cette ambition sociale, donc il n'est pas...
Pour quelle raison ? Parce que les auteurs, les réalisateurs sont plutôt progressistes et point ? Parce que au fond on a plus de chances d'avoir du succès en portant des valeurs progressistes ?
Alors, en effet, il y a eu toujours cette ambition chez les scénaristes qui écrivaient ces séries. Ben, Aaron Sorkin, l'équipe aussi, toute l'équipe de The West Wing, Urgence, qui était un peu le même type de profil. Il y a eu toujours cette ambition sociale des réalisateurs, de ceux qui écrivaient ces séries. Hein. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose qui est permanent. Maintenant, il y a en effet vraiment une insistance très forte sur des formes d'injustice vraiment enracinées dont on parle beaucoup en ce moment à propos du racisme et qui ont été vraiment dénoncées dans un certain nombre de séries ces derniers temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui converge et cette volonté quasiment militante hein, de certaines séries. Et c'est pas seulement parce que ceux qui les écrivent ont une volonté sociale, parce que c'est vrai que c'est très souvent le cas à Hollywood hein, en réalité, avec toute l'hypocrisie qui va avec. Mais je crois que c'est aussi en effet une forme de d'évolution de la société et du fait qu'ils se rendent compte de la puissance de cet outil, c'est-à-dire à quel point une série télévisée va toucher un public très très large et peut vraiment avoir une influence. Et je crois que ça
plus
c'est
que
extrêmement
pour un film, alors.
Beaucoup plus qu'un film, en tout cas.
Et donc les séries seraient plus progressistes que les films potentiellement.
Bah, ouais. En fait, c'est vraiment là. Oui, c'est vraiment cela qui se passe. D'ailleurs, les cinéastes femmes se plaignent beaucoup de la sous-représentation des femmes au cinéma, dans les séries télévisées. C'est beaucoup plus équilibré. Même chose pour la représentation des minorités. Donc, oui, de fait, les séries vont souvent être plus progressistes. Ensuite, c'est vrai que dès lors qu'elles ont cette dimension donc de pouvoir se déployer sur des heures et des années, c'est quand même beaucoup plus facile de développer un propos qui est quasiment théorique quand c'est sur la durée. Et je crois que ça, c'est aussi un atout des séries. Et ensuite, c'est vrai que les grands films populaires, en fait, vus par tout le monde dans le monde entier, eh bien, mis à part les Star Wars, qui sont comme des formes de séries malgré tout, il n'y en a plus beaucoup au XXIe siècle. Mmh. Et donc, les séries ont pris vraiment ce rôle social et politique.
Alors, elles portent des valeurs a priori plus progressiste, mais sauf que c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des séries qui portent des valeurs particulièrement conservatrices. On va justement parler d'une série dans un très court instant, une série israélienne, Faouda, avec une nouvelle invitée. On est avec vous, Sandra Logier, dans cette série consacrée aux besoins d'évasion. Et aujourd'hui, on se réfugie dans le monde des séries. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mine هذا المقدسي
العلاقة مع حماس فتش عليك
جاسل درون אני אסע להרוג את אבא שלי שהוא יגיע גם לילדים שלי אצטרף אליכם למבצע אחד עכשיו
Voilà, Faouda, série israélienne qui porte à l'écran l'activité d'une unité spéciale de l'armée israélienne qui mène des opérations au cœur de la population arabe. Ses créateurs, Lior Raz et Avi Issacharoff, en sont d'anciens membres. C'est une série qui a fait l'objet de nombreuses polémiques au Moyen-Orient, avec d'un côté ses défenseurs qui louent son extrême réalisme et de l'autre, eh bien, ses opposants, ses critiques, avec notamment ce mouvement boycott des investissements et sanctions qui a demandé à Netflix de le retirer tout simplement de son catalogue en vain. Bonjour Amélie Ferret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI. Vous êtes auteur notamment de Assassinat Ciblé, critique du libéralisme armé qui était paru aux éditions du CNRS. Et vous travaillez donc sur les conflits armés, le terrorisme, le conflit israélo-palestinien en particulier. Et vous vous intéressez en particulier aux formes de narration dans les séries. Vous aviez signé un article très intéressant sur le site The Conversation, justement sur cette série en particulier. Alors la première saison avait déjà fait l'objet de nombreuses polémiques. Là, on en est à la saison 3, qui a commencé, je crois, fin 2019. Et les débats sont toujours aussi vifs. Qu'est-ce qu'on reproche, Amélie Ferré, à cette série, concrètement ?
Alors, effectivement, donc, les débats sont très vifs sur la saison 3, d'autant que la saison 3 se déroule à Gaza, donc vraiment un point sensible du conflit israélo-palestinien. Et ce qu'on reproche, en fait, à cette série, c'est notamment le positionnement des deux showrunners, donc Lior Raz et Avi Issacharoff. puisque ces deux showrunners présentent justement la série comme donnant une fenêtre sur le conflit israélo-palestinien comme étant réaliste. Et ils jouent d'ailleurs du brouillage entre fiction et réalité dans la stratégie marketing, alors que justement les Palestiniens, eux, montrent que c'est plutôt le point de vue de Tsahal sur le conflit plutôt qu'un point de vue réellement objectif. Et c'est ça tout le problème.
Quand vous dites réellement objectif, c'est que on n'a pas précisément le point de vue des Arabes. On n'a pas le quotidien qui est fait de routes bouclées, d'arrestations arbitraires, de détention de mineurs, de démolition de maison, c'est ça qui manque.
Voilà, exactement, c'est ça qui manque. Également, la présence de la pauvreté, puisque Gaza, c'est quand même 53% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et on n'a pas du tout cette dimension qui est présente dans la série. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les créateurs, eux, se positionnent comme étant plutôt de gauche, comme étant plutôt progressistes à l'intérieur de l'échiquier politique israélien, et alors que, précisément, leur vision du conflit, elle sert en réalité la droite israélienne. Et c'est là, justement, tout que le bât blesse.
En quoi elle sert la droite israélienne ?
Parce qu'en fait, elle valide une vision du conflit dans lequel, justement, l'islamisation sert d'un épouvantail nourrit le terrorisme. Parce que, par exemple, dans la saison 1, donc, on a une utilisation des armes chimiques qui faisait écho à la guerre en Syrie. Dans la saison 2, c'est l'État islamique, alors qu'en réalité, l'État islamique est très peu présent dans le territoire palestinien. Et on a une ringardisation du Fatah et d'une lutte, en fait, palestinienne au nom d'une indépendance nationale et pas au nom d'une religion qui serait la religion musulmane.
Donc on a cette idée selon laquelle finalement les racines du conflit seraient d'abord à chercher dans la question religieuse, dans le radicalisme, la radicalisation supposée des Arabes dans l'islam, et on laisse de côté un peu la lutte territoriale. Et ça, c'est vrai que c'est un argument évidemment qu'on trouve dans cette droite conservatrice israélienne. Il y a une autre idée qu'on retrouve dans la droite israélienne. C'est celle selon laquelle, au fond, la paix serait aussi l'impossible paix serait de la responsabilité des Palestiniens qui ne proposeraient pas d'interlocuteur pour la construire. Est-ce que cette idée-là, qui est une idée vraiment très présente dans cette droite israélienne, est-ce qu'elle est présente aussi dans cette série ?
Oui, elle est tout à fait présente, en fait. Donc, c'est vraiment la thèse du pas de partenaire pour la paix qui avait été formulée par Barak dans les années 2000. Et en fait, dans la série, on voit bien que tous les acteurs palestiniens ne peuvent pas, en fait, faire la paix avec Israël, soit pour des convictions religieuses ou politiques, ou soit justement parce qu'ils sont pris dans un engrenage qui font qu'ils ne peuvent pas le faire. Par exemple, les personnages féminins dans cette série sont très intéressants puisque elles représentent le progressisme dans une société arabe qui est dépeinte comme très conservatrice, et en réalité, elles sont d'abord victimes des hommes palestiniens qui veulent les soumettre, en réalité, plutôt que de l'occupation israélienne. Et ça participe à l'idée que, finalement, tous les civils, qu'ils le veuillent ou non, sont pris dans le conflit et donc sont potentiellement des civils participant directement aux hostilités et donc des ennemis.
Encore un petit mot, et puis je fais réagir Sandra Laugier. Il y a aussi quelque chose qu'il faut évoquer à propos de l'articulation qu'on évoquait tout à l'heure avec Sandra Laugier entre réalité et fiction. Quand les producteurs ont lancé la saison 2, il y a eu une campagne de lancement qui a beaucoup fait parler d'elle. On peut dire qu'elle a carrément créé la polémique, voire carrément le scandale. Vous nous racontez ?
Oui, alors exactement, c'est très intéressant. En fait, ils ont donc placardé pour l'annonce de la saison 2 dans l'espace publicitaire israélien des grands panneaux noir avec dessus des inscriptions en arabe en lettres blanches. Sans plus d'informations, et les inscriptions en arabe voulaient dire justement le chaos arrive. Or, on était vraiment dans le contexte où il y avait une résurgence de Daesh dans la région, et donc il y a des citoyens israéliens qui ont appelé, affolé leur mairie pour demander justement de retirer ces affiches parce qu'ils avaient peur justement que ce soit une offensive dans la région. Et ça, ça donne le ton de cette série qui est à la fois passionnante parce que justement elle est irrévérencieuse, elle met les plaies dans le plat, elle joue du brouillage entre fiction et la réalité. Voilà, c'est vraiment une série musclée d'action. Et en même temps, ça montre que il y a quand même un non-respect ou en tout cas un peu d'attention, peu de cas qui est fait aux sensibilités politiques très exacerbées en Israël et en Palestine.
Vous restez avec nous, Amélie Ferré. Réaction, Sandra Logier.
Oui,
vous la connaissez, hein, vous en parlez dans votre livre.
Oui, oui. D'abord, merci, Amélie, parce que c'est des analyses vraiment très, très, très fortes hein, que vous proposez. Et je crois que c'est très juste. C'est vrai que dans mon livre, j'avais parlé de Fauda, mais j'étais, comme beaucoup de spectateurs qui connaissent moins bien, en fait, cette situation, j'avais vraiment été plutôt positive. Et d'ailleurs, en France, la série a beaucoup de succès, y compris c'est des publics très très progressistes, parce qu'elle semblait au départ, peut-être encore dans la première saison, présenter une vision équilibrée, qu'elle était regardée un peu partout en fait, pas seulement en Israël. Et donc du coup, c'est vrai qu'étant donné que c'est une très belle série d'action avec une très grande puissance, et voilà, il y avait vraiment quelque chose de très innovant et d'intéressant. Et de fait, là, on a vraiment affaire, en effet, à une série qui diffuse une pensée, une vision politique. Et je crois que tout le monde a vraiment réagi à cette troisième saison en particulier, comme si, d'ailleurs c'est ça que je voulais demander à Amélie, c'est intéressant puisque ce qu'elle dit est vrai depuis le début, mais de fait, pendant les deux premières saisons, je crois qu'on est un certain nombre de personnes à avoir un peu fermé les yeux, c'est ce qu'a de le dire, c'est une vision un peu déséquilibrée, certainement peut-être par manque de connaissance de ces enjeux politiques internes en Israël, et c'est vraiment là, la vision de cette troisième saison, en gros, le caractère caricatural est apparu aux yeux de tout le monde, à la fois une vision quand même très unilatérale, où là, les personnages palestiniens sont tous soit dangereux, ou psychopathes, plus ou moins, sauf les femmes, en effet, mais dans cette position dominée. Ensuite, les femmes aussi, y compris du côté israélien, là, les femmes ont quand même aussi un rôle assez caricatural, hein, une vision quand même assez sexiste aussi, et c'est vrai qu'on a l'impression que là, la série soit a changé de profil, soit s'est révélée d'une certaine façon avec cette troisième saison. Donc c'est, et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Donc merci, parce que c'est très intéressant de voir quand même, bien sûr, il y a cette diffusion d'une vision que Elie a très bien analysée, mais ça montre quand même le niveau intellectuel quand même de toutes ces séries qui produisent vraiment de l'analyse. Hein. C'est vrai pour Homeland, c'est vrai pour Fauda, et c'est vrai que ces analyses, eh bien, ce pouvoir d'analyse, il va en effet être orienté dans des diverses directions idéologiques. Hein. Et je crois que ça confirme quand même l'importance en fait de ces séries comme outil de pensée et d'analyse, et quelque chose qui fait partie de la discussion internationale, de ce que c'est, en fait, ce qu'on attend des démocraties.
Et alors, si on passe justement de l'autre côté, Amélie Ferré, est-ce que côté palestinien, on a des contre-récits, notamment à travers, évidemment, des séries qui sont l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, qui proposeraient un autre regard, justement, sur le conflit ?
Alors justement, c'est tout le problème en fait. Au départ, donc les deux showrunners, et c'est pour ça aussi qu'une partie de la gauche est tombée dans le panneau, se sont vantés qu'ils avaient une très bonne réception dans la population palestinienne. Le problème, c'est que les audiences de Netflix sont confidentielles, donc c'est très difficile de vérifier les dires. Et on a donc plusieurs créateurs palestiniens qui se sont élevés, qui ont publié donc des tribunes pour dire que c'était pas du tout le cas. Et donc Lior Raz et Ali Zakharov ont répondu, mais les Palestiniens, s'ils veulent créer leur propre récit, eh bien, ils n'ont qu'à produire leur propre série. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué dans le contexte palestinien de produire ces séries, parce que, en fait, l'armée israélienne contrôle toute la Cisjordanie, et d'ailleurs, aujourd'hui, va peut-être l'annexer. Donc, il y a par exemple eu un projet de loi qui interdit en fait aux personnes de filmer tous les lieux où il y a l'armée, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a d'ailleurs un film, pour le coup un documentaire, qui avait été fait, qui s'appelle 5 caméras cassées, dans lequel en fait un Palestinien essaye de produire un documentaire et il se fait casser donc 5 caméras par l'armée israélienne, ce qui donc illustre toutes les difficultés faire une série. Il y a quand même Saïd Kechoua qui, lui, est un arabe israélien, donc avec un statut un petit peu différent, et qui a fait justement une série sur cette difficulté à produire un récit. C'est l'histoire d'un scénariste qui va voir des producteurs israéliens qui essayent de leur demander de l'argent. Et à chaque fois qu'il dit qu'il est arabe, évidemment, les producteurs disent « Ah, mais ça va pas passer au niveau du public, etc. » Ça s'appelle ça s'appelle donc Le Scénariste, et c'est disponible sur Netflix.
Oui, ce film Five Broken Cameras qui était sorti en 2011. Après, du côté israélien, il y a aussi des formes de contre-récits. Il y a une autre série qui a posé énormément de problèmes. Mais alors là, pour le coup, de l'autre côté, c'est Our Boys qui raconte les événements qui ont conduit en 2014 à la guerre de Gaza avec l'enlèvement de plusieurs adolescents juifs alors qu'ils faisaient de l'autostop retrouvés morts après plusieurs jours et puis l'assassinat en représailles d'un jeune arabe de Jérusalem-Est. Cette série, elle a été qualifiée par certains d'antisémite. Le Premier ministre Netanyahou a dit qu'elle salissait Israël. On a là l'autre côté.
Exactement, on a là l'autre côté. D'ailleurs, c'est coécrit justement avec un Israélien de religion juive et un Israélien de religion musulmane. En fait, ça montre bien ce que disait Sandra Logi, la politisation et l'impact en fait des récits sur justement l'échiquier politique israélien et par conséquent aussi mondial.
Sandra Logi.
Oui, je voulais juste ajouter que Our Boys, je pense, a fait beaucoup de mal à Fauda pour ceux qui vraiment s'intéressent au genre et ont regardé les deux, hein, puisque Our Boys avait un tel équilibre. Alors justement, parce qu'elle est aussi réalisée par... elle n'est pas seulement réalisée par le côté israélien, mais palestinien.
C'est un israélien, c'est un arabe israélien.
Un arabe, pardon. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Mais en tout cas, il y avait un équilibre des visions et du coup, un côté beaucoup moins idéologique puisqu'il y avait vraiment une attention à l'expression de chacun des deux camps. Et je crois que ça a été quand même un contraste aussi extrêmement important. Et je voulais aussi ajouter que le fait que justement les Palestiniens, souvent les Arabes, ne puissent pas matériellement faire de série, je crois que ça montre à quel point c'est important justement pour tous les pays de pouvoir réaliser des séries et pas seulement de trouver des séries qui les représentent correctement.
Et bien justement, vous me tendez la perche pour la nouvelle invitée qu'on va recevoir dans quelques instants, le co-auteur de cette série que vous évoquiez, qui est donc un arabe israélien, s'appelle Toufik Abou Wael. Voilà, comme ça on a donné son nom. Merci beaucoup Amélie Ferré d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'autrice notamment d'Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé. On va prendre la direction du Sénégal où aujourd'hui il y a une série qui marche très bien et qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié.
Les femmes n'ont qu'un rêve, réussir et se marier. Leur quotidien est fait de combats. Essayer d'être une mère. La fille de quelqu'un, l'épouse d'un homme, de s'imposer dans le travail ou juste de faire entendre ça.
Je suis née pour bosser et diriger.
Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'être une femme, c'est souvent être capable du pire. J'ai choisi d'être cette femme qui s'impose, celle que l'on déteste, mais qui poursuit son bonheur. Mon nom est Marim Diab et je suis la maîtresse d'un homme marié.
Voilà, donc Maîtresse d'un homme marié, série sénégalaise produite et réalisée au Sénégal, dont la saison 2 est en cours de diffusion. C'est un véritable carton, même si certains la jugent scandaleuse, notamment parce qu'elle présente sans phare des thèmes comme l'adultère, la polygamie ou encore les violences conjugales. Bonjour, Mam Rakaya Ndoye.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue,
ouais, merci à vous.
Vous êtes spécialiste en socio-anthropologie des arts et de la culture et en sociologie filmique, membre du Centre de recherche imaginaire et socio-anthropologie de l'Université de Grenoble. Voilà pour la présentation complète. Et vous aviez publié l'année dernière Cinéma Ouest-Africain et pourtant il tourne, c'était chez l'Harmattan. Vous intéressez au cinéma mais aussi aux séries. Cette série-là, Maîtresse d'un homme marié, faut bien comprendre, hein, au Sénégal, chaque épisode, c'est 1,5 million de téléspectateurs et je ne compte même pas tous les vues sur Internet des épisodes qui sont mis en ligne. Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'immense succès de cette série, qui est une série sénégalaise, hein? On consomme depuis très longtemps des séries au Sénégal, mais et on en fait aussi, mais c'est pas si souvent que ça qu'une série sénégalaise rencontre un tel succès.
Effectivement, je pense qu'il serait intéressant de revenir un peu sur le contexte de la naissance de, de cette série. En fait, il faut rappeler que pendant longtemps et jusqu'à récemment, l'offre fictionnelle des chaînes télévisées ouest-africaines francophones était majoritairement composée d'images importées, venant de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, etc. Donc, c'est à partir des années 2000 qu'est apparue une nouvelle offre audiovisuelle plus locale. Et cela a été rendu possible par le développement du numérique, la coproduction avec des chaînes de télévision françaises comme TV5 Afrique et ceci. Et enfin, ça a été possible aussi grâce aux accords de diffusion avec les producteurs nationaux. Donc, c'est dans ce contexte novateur et de renouveau de l'offre de contenu qui est apparue la série Maîtresse de nos maris. Donc, pour revenir à ce succès, je dirais que cela est dû à plusieurs raisons. Premièrement, il y a quand même, il faut le dire, une très grande qualité artistique et technique de cette série. Et secondement, en fait, l'équipe a réussi à mixer les codes occidentaux des séries à succès à la réalité sénégalaise, ce qui fait qu'il y a une forte identification des téléspectateurs aux personnages de la série. Mmh. Les messages véhiculés font écho au public et plus particulièrement aux jeunes. Et je pense aussi que la réalisatrice a utilisé une stratégie de communication qui peut s'apparenter à ce que les anglophones appellent le shock advertising, c'est-à-dire frapper les esprits pour faire passer un message.
Ouais. Alors justement, le message, Mme Rakaya Ndoye, parce que effectivement, je vous rejoins sur l'esthétisme. Alors moi, sur le fait qu'on a effectivement des codes esthétiques qui sont assez proches de ce qu'on peut voir dans des série occidentale, je l'ai pas vu entièrement, mais j'en ai vu quelques extraits hier et effectivement, on s'y retrouve complètement, évidemment. Mais il y a aussi le thème, le contenu, le sujet, l'objet de cette série, c'est la question de la polygamie, qui est un sujet éminemment tabou au Sénégal, qui est là, qui est présent tout le temps, toujours dans la société, mais qui est très tabou. Est-ce que c'est ce côté transgressif aussi qui explique ce succès?
Oui, je pense aussi ça c'est exactement les thématiques véhiculées par cette série qui font qu'elle fasse tabou. Déjà, si on prend que le titre, il fait débat. Maîtresse en homme marié rend réel plusieurs tabous, comme vous l'avez dit, que la société sénégalaise préfère cacher. Au-delà de la polygamie, cette série parle de l'infidélité, l'adultère, les statuts des maîtresses quand même, parce que Marème Dial, l'actrice principale, assume son statut de maîtresse. Ce qui peut choquer une grande partie de la population qui est quand même assez conservateur et patriarcale. Donc, aussi, l'autre point qui peut choquer, c'est que les détracteurs reprochent à cette série qu'elle prône une trop grande liberté, surtout sexuelle, des femmes. Parce que ce qui est mis en scène, par exemple, les nuisettes, les flirts, les rapports sexuels hors mariage, ont choqué une très grande partie de la population à tel point que l'ONG islamique Jamra a saisi le CNRA, le Conseil national de régulation audiovisuelle.
Pour demander son interdiction, ce qui n'a pas fonctionné.
Exactement, ce qui n'a pas fonctionné, mais quand même, elle a été mise en la chaîne de diffusion, désestimée plutôt, excusez-moi, a été quand même mise à demeure pour diffusion d'images indécentes, obscènes, injurieuses.
C'était quoi, c'était quoi ces images indécentes? Parce qu'il n'y a pas de scène de sexe explicite, jamais.
Exactement. Mais par exemple, la scène qui a le plus choqué dès le début, c'est que quand l'actrice principale, Marème Dial, assume que son corps lui appartient, qu'elle a le droit d'en faire ce qu'elle voulait, que sa sexualité était son propre et qu'on faisait ce qu'elle voulait. Ce qui a excessivement choqué parce que tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié à l'intimité est toujours un sujet tabou. Encore plus encore les rapports sexuels hors mariage et tout ce qui suit.
Vous restez avec nous, Mme Rakaya Ndoye. Pardon, j'ai tout à l'heure écorché votre nom. Je vous prie de m'excuser. Sandra Logier, réaction sur cette série, alors que vous ne connaissiez pas, mais que du coup
non,
vous avez
découvert. Grâce à vous, et c'est absolument passionnant de voir qu'il y a une série comme celle-là qui est produite vraiment au Sénégal, hein, et qui visiblement va diffuser au-delà, hein, parce que le vrai progrès dans les séries, c'est pas cette diffusion mondiale de contenu produit par les États-Unis, par exemple, ou la France, mais c'est le fait que donc des séries soient produites de cette façon. D'ailleurs, ça a commencé déjà depuis un moment. Par exemple, il y avait des séries en Espagne, par exemple, donc la Casa de Papel, une série qui était vraiment au départ locale, produite en Espagne, qui est devenue un succès mondial. Et donc là, il y a vraiment aussi la fin d'une sorte de monopole des grands pays occidentaux dans la production des séries. Et je crois que c'est ça le seul outil de véritable démocratisation, hein, parce que sinon, il n'y a pas cette pluralité de vision. Ensuite, cette série, évidemment, très très provocatrice et joue justement ce rôle progressiste, hein, dont on parlait, puisqu'elle aborde toutes sortes de questions et qu'elle fait débat. Et donc, quand une série fait débat, ça veut dire qu'elle pose vraiment
les
bonnes questions. Ouais. D'ailleurs, on peut se souvenir quand même à la fin du siècle dernier, la série Sex and the City, hein, qui, pour la première fois, présentait des femmes à la sexualité très libre à New York. C'est une série qui aussi avait choqué, avait suscité des débats, mais elle était sur HBO, qui était une série câblée assez confidentielle. Donc, le vrai progrès, c'est quand, en effet, on peut poser ces questions dans des série qui touche un très large public. Et donc là, il y a vraiment un progrès assez extraordinaire. Mais je crois que le fait justement qu'il y ait des difficultés, ça montre aussi l'intérêt, la force de cette série. Et en effet, cette dimension aussi féministe, hein, bien entendu, hein, puisque cette dimension féministe, elle est montrée non seulement à travers l'héroïne principale ou la deuxième, mais c'est un groupe de femmes. On a vraiment un ensemble, et c'est toujours, en fait, aujourd'hui, les séries vraiment féministes vont présenter les femmes dans leur diversité, la diversité des situations qu'elles affrontent. Et là, c'est aussi le cas dans cette série. Donc, je crois que là, il y a vraiment un phénomène qui est vraiment qui donne beaucoup d'espoir, hein, qui donne sens en fait à ce médium, à série, comme pouvant réellement en fait transformer la société.
Ouais, ce thème d'ailleurs de la condition féminine, de la question des femmes, il est très présent dans une série qui a d'ailleurs été utilisée pour la couverture de votre livre, qui est La Servante écarlate. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand elle est sortie, on était à peu près dans le moment de l'affaire Weinstein. Ouais. On a dit, c'est incroyable, cette série est parfaitement en phase avec notre monde d'aujourd'hui. Alors, en réalité, c'est une adaptation d'un roman qui avait été déjà publié 35 ans avant. Donc, c'est intéressant de voir que le pouvoir politique que l'on confère aux séries, il dépend complètement de notre environnement du moment.
Oui, parce que c'est un ouvrage classique, hein, donc assez ancien, mais de fait, que ce soit avec l'affaire Weinstein ou donc la prise de pouvoir par Trump, hein, puisque c'est vraiment ça qui a été qui est à l'arrière-plan de la vision de cette série, il y a eu une actualité très forte de cette série. Donc c'est une série en plus qui se situe dans un futur lointain, enfin pas si lointain que ça, mais donc qui est dystopie, hein, comme on dit, donc qui est censée représenter un monde qui a vraiment rien à voir avec le nôtre. Et en réalité, cette série a une actualité extraordinaire. Elle a cette réalité parce que elle pose en fait des problèmes qui sont ceux du monde d'aujourd'hui. On revient à cette vision géopolitique, hein, puisque c'est vraiment la régression dans le monde entier des droits des femmes. Et donc, c'est une série qui non pas décrit un risque, mais décrit une réalité. Et je pense que c'est ça qui fait sa puissance. D'ailleurs, sur la couverture du livre, c'est pas des images de la série, c'est des images de manifestantes qui ont repris les costumes de la série. Et donc, l'esthétique de la série a été reprise, en fait, pour exprimer un message politique. Et je pense que c'est ça la force des séries dont on a parlé, hein. C'est vraiment comment, en fait, une esthétique a un pouvoir politique.
Merci beaucoup à Mam Rokaya Ndoye d'avoir été avec nous. Je rappellerai votre ouvrage Cinéma Ouest Africain et pourtant il tourne, qui était paru chez L'Harmattan. On mettra la référence évidemment de votre ouvrage sur la page de Culture Monde. Un grand merci à vous, Sandra Logier, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle votre dernier ouvrage, Nos vies en série, chez Flammarion. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.